Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bon dimanche matin, bon réveil, les grandes gueules du sport, c'est votre émission. Le samedi, le dimanche de 9h à midi en direct, on est très heureux de vous retrouver. Et alors là, aujourd'hui, on a énormément de choses à vous raconter, beaucoup de sujets et beaucoup de débats dans cette émission. Au sommaire, deux Français sont en rendez-vous des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Hugo Humbert affronte en ce moment Sacha Zverev. Cette édition était largement réussie pour nos Français. C'est la une des GG dans quelques instants. 10h, le bras de fer. Dans 3 jours, le match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain face à Manchester City. En cas de contre-performance, les Parisiens pourraient être quasiment éliminés de la Ligue des Champions. Ce match peut-il mettre le feu au PSG? Les GG ne sont pas d'accord. Et puis 11h, un invité exceptionnel. Il vient de terminer deuxième du Vendée Globe. Yann Richaume sera dans le studio RMC et il devra répondre à toutes les questions perfides de nos GG. Et puis ne manquez surtout pas à 11h30 votre nouvelle séquence. Les GG remontent le temps. Il y a 12 ans, jour pour jour, les aveux de Lance Armstrong. Le pardon est-il possible? Ça va faire débat, forcément, dans le studio. Car je vous présente les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Lance Armstrong, c'était le vrai boss, le tyran. Mais ça, c'était avant. Christophe Cessieux, salut. Ouais, Christophe.
Bonjour, bonjour. J'aimerais bien remonter le temps, moi, un petit peu aussi ce matin. Là, je me sens un peu vieux. J'ai eu beaucoup de mal à me réveiller, là. Donc, si on pouvait revenir 30 ans en arrière, ça m'irait.
Tu sais ce qu'on dit, hein, à partir de 60 ans. Enfin, c'est dans quelques mois pour toi.
Ouais, je n'y suis pas encore.
Quand tu te lèves et que tu n'as mal nulle part, c'est que t'es mort.
Et à partir de 50 ans, fais gaffe.
Hein. Ah, c'est vrai? Mince, ça arrive vite aussi de mon côté. Une grande gueule qui, comme Lance Armstrong, n'a jamais gagné le Tour de France, Marc Madiot. Salut Marc.
Salut.
Ça va, mon cher Marc?
Bien. Pleine forme.
Je suis heureux de te retrouver comme ça le samedi,
aussi,
le dimanche.
Oui, ça nous manquait.
T'es content d'être comparé à Lance Armstrong ou pas?
Comment te dire?
Oui. Il y a une insulte qui va partir, je
à
le sens.
À la différence près que Marc Madiot a remporté 2 fois Paris-Roubaix, Lance Armstrong n'a jamais gagné Paris-Roubaix.
Ah, voilà. Et
il a même pas eu besoin d'être déclassé. Il n'a jamais gagné Paris-Roubaix.
Il n'a jamais gagné Paris-Roubaix. Voilà.
Prends ça, Lance. Bon, une grande gueule qui, comme Lance Armstrong, il a entraîné tout le monde dans sa chute. Jérôme Pinot, salut Jérôme.
Si c'est ça le point commun que je puisse avoir avec ce mec, alors ouais, d'accord.
Tu prends?
Je prends.
T'es content de parler de Lance Armstrong? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé tous les deux.
Alors, je suis absolument pas content de parler de Lance Armstrong parce que j'aimerais qu'on n'en parle plus jamais, mais s'il faut en parler, on va en parler.
Ok, plaisir. Ce sera à 11h30 à déguster sans modération cette petite séquence proposée par Christophe Cessieux. Les GG remontent le temps.
À la différence de Lance Armstrong, moi, on m'a emmené pour emporter les autres avec dans ma chute.
Voilà.
Lui, il y a été, il a emmené tout le monde.
Tout seul. Une grande gueule qui conne Lance Armstrong, on lui a enlevé tous ses titres. Bon, lui, il était pas emmerdé, il n'en avait pas. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut Jean-Christophe, salut les amis. Donc tu parlais de l'âge qui avance. 62 ans et je suis bien vivant parce que j'ai mal partout. Donc je suis bien vivant, j'ai mal partout.
Eh ben voilà, on est très heureux de te savoir avec nous, en tout cas mon cher Pascal. 62 ans, 59 ans. Marc, t'as quel âge?
Devine.
Ah, tu veux pas, t'aimes pas qu'on parle de l'âge?
J'aime pas l'anniversaire.
Ah, t'aimes pas l'anniversaire?
Moi non plus. Moi non plus.
Depuis que j'ai
20 ans,
je ne fête jamais mes anniversaires.
C'est vrai?
Ah oui, ça a commencé jeune quand même. Je dirais, je crois que tu dois avoir, 60? 61? Un peu plus? Ah, ouais, j'ai pas compté la TVA. 65? 65? Ouais. Ah oui, d'accord. Et Jérôme?
45.
C'est un gamin, Jérôme.
Depuis quelques semaines.
Tu vas voir, ça va en s'accélérant.
Bon anniversaire, mais notre cadeau, mais c'était là. C'était le débat.
Tu sais que j'étais avec certains de ses employés l'autre jour de marque au sport d'hiver, enfin au ski avec le centre de droit et des communes du sport, et j'ai discuté avec Julien Pinot, il m'a donné ton âge. Je dis, c'est pas possible. J'y croyais pas.
Mais oui, il est toujours.
Mais il est toujours aussi.
C'est un beau vieux.
Ouais. T'es pas mal aussi, Christophe.
Ouais, je suis beaucoup plus jeune.
Christophe, c'est un sale vieux, lui.
Allez.
Et t'as un sale type.
Évidemment, le duo et la ligne, hein. Cessieux Duprat va marcher à fond.
Évidemment.
Encore ce matin. Alors demain, c'est le Blue Monday, chers auditeurs. C'est le jour soi-disant le plus déprimant de l'année. Pas sur RMC. Toute la journée de demain, nous vous offrons du cash ou des vacances. C'est vous qui choisissez. À gagner jusqu'à.
C'est ça, le Blue Monday.
Ça fait 5-10 ans que j'en entends parler. Ouais. Ah ouais. On dit que c'est le troisième week-end de janvier, c'est le week-end le plus maussade, voilà.
Ah bon.
c'est après les fêtes, ouais. Faut se projeter déjà sur l'été, mais c'est
il
loin.
Enfin, beau, ça dépend. Voilà. On est quand même très voilà. loin des beaux jours.
Le 20 du mois, on n'a plus d'argent déjà sur le compte. Enfin voilà, c'est le jour le plus déprimant de l'année.
On est en plein dry January et on compte les jours, quoi.
Oh, mais c'était pas obligé de le faire, ça.
Ah, bah non, mais bon.
Alors, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai appris qu'il y avait, en plus, c'est bien de le dire, il y avait le vegan January aussi. On mangeait pas de viande.
Pas du tout.
Non, tu.
Enfin, Chris, si t'es en plein dry January, reprends le pinard et arrête les sodas. Hein. C'est beaucoup plus sympa pour ta santé. Hein.
Exactement. Bref, à gagner jusqu'à 5000 euros à partir de demain et un séjour clé en main, soit à la montagne, à la campagne, à la mer ou directement sur la mer avec une croisière. Au top inscription, ce sera un peu plus tard dans cette émission. Vous enverrez RMC au 732-16, mais ça, je vous en reparlerai tranquillement. On va parler tennis dans quelques instants, mais justement, priorité au direct, direction Melbourne, où on retrouve notre envoyé spécial Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Eric. Ça va mieux pour notre Français Hugo Humbert, c'est un huitième de finale. Face à
oui,
Sacha
ça va beaucoup mieux. Il a pris 6-1 en 27 minutes. On s'est dit tiens, c'est le même scénario qu'à Bercy au mois de novembre. Mais il y a eu une superbe réaction de Hugo Humbert qui s'est détaché 4 jeux à 2 dans cette deuxième manche, notamment avec un jeu de retour époustouflant. On sent que il veut prendre sa chance à fond. Il a retourné merveilleusement des missiles à 200-210. Donc il y a un espoir de recoller une manche partout.
Ok, on va suivre tout ça. En tout cas, ce sera le fil rouge évidemment de cette émission, ce huitième de finale entre Hugo Humbert et Sacha Zverev. Justement, l'Open d'Australie, on va débuter cette émission avec cette citation de Jean-Pierre Chevènement qui a dit un jour « La réussite individuelle et la réussite nationale sont inséparables ».
RMC, la une des grandes gueules du sport.
5-4, 45, galette au service, bonne première, c'est un ace! C'est un ace extraordinaire!
Ah, ça sort encore, ça fait quelques minutes que Arthur Fils et Sébastien Grosjean qui vient de lui indiquer d'arrêter. Il y a trop de souffrance pour Arthur Fils depuis quelques minutes, il a mal aux pieds.
Et voilà, cette fois c'est bon. 3h34 de bagarre. Et Corentin Moutet calme toute la John Cain Arena face à la tête de série australienne Alexei Popirine.
Il n'en peut plus, ça doit cogiter dans sa tête. Deuxième balle d'Hugo Humbert. Retour sur la bande. Gagnant pour Arthur Fils. Mais Arthur Fils se dirige vers Hugo Humbert et il lui dit j'arrête mon pote. Voilà, terminé. Abandon de Arthur Fils, Hugo Humbert qualifié pour les huitièmes de finale.
Quel bon fils ! À 38 ans, il se qualifie pour les huitièmes de l'Open d'Australie.
Congratulations, ça fait some unbelievable tennis.
T'as entendu, hein ? C'est ça les Français.
Pour la deuxième fois d'affilée, deux Français sont au rendez-vous des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Hugo Humbert et Gaël Monfils ont remplacé Manarino et Cazaux. Justement, Eric Salio, on vient te voir tout de suite car Hugo Humbert vient de double breaker l'Allemand.
Oui, 5 jeux à 2 pour Hugo Humbert qui vraiment a bien réagi après la perte d'un premier set où il était un petit peu fantomatique, mais là c'est du grand Hugo. 5-2 donc il va servir pour égaliser une manche partout face à un Zverev qui commence à se poser des questions.
Alors je le disais, deux Français au rendez-vous de ces huitièmes de finale. Pour cette édition 2025, ils étaient 5 au troisième tour. C'est une première depuis 2017. La musique qui fout les jetons est cette question. L'Open d'Australie est-il d'ores et déjà largement réussi pour nos Français ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
C'est très difficile de dire work in progress, quoi. On est en train d'assister au match et tu nous demandes de savoir si c'est une réussite.
Déjà,
si s'il bat Zverev, ce sera une réussite.
Ok, mais pour l'instant, c'est non.
Pour l'instant, c'est un bon cru, mais c'est pas un cru exceptionnel.
Ok, Marc Madiot.
Un petit 10/20 pour l'instant.
Oula, ok. Jérôme Pinault. Avec le micro.
Non, pour moi non.
Non plus, ok.
C'est comme Christophe l'a dit, en cours.
Ok, c'est pour ça que je vous demande oui ou non. Merci beaucoup les copains.
Tu demandes de faire un bilan alors que le truc n'est pas terminé. C'est trop fort.
S'il passe
même,
en quart, là oui. Là si, oui, ça devient une bonne
si
édition.
Si mon fils demain passe en quart de finale et si Humbert bat Zverev, ce serait une totale réussite.
Si ma tante en avait.
Le problème, c'est qu'elle en a pas et peut-être qu'elle en avait, mais on ne sait pas.
Tu nous as dit Zverev il y a deux minutes et maintenant tu nous dis mon fils. Donc si mon fils gagne le tournoi, ça sera réussi. C'est ça
Alors Pascal, attendez.
Le tournoi, il est réussi.
Pascal,
le
oui
tournoi,
ou
pour moi, il est réussi.
Ok,
ben
voilà.
Du moment
que j'ai rentré
au deuxième tour, c'est une réussite pour Pascal.
Oui, mais
vu l'ampleur de ce sport en France, on peut se contenter de deux mecs en deuxième semaine. C'est génial, on est content.
Alors, au moins, on en parle déjà. Ça veut dire que c'est bon.
De toute façon, du tennis, on en parle même quand on est à la ramasse, qu'on parle même des filles. Alors qu'on ne sait même plus si on joue au tennis en France chez les filles.
Le débat déjà.
Quelle aversion au tennis.
Je sens qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Eric Salio, déjà, toi qui passes tous les mois de janvier en Australie, est-ce que c'est déjà une très belle édition pour les Français?
Faut quand même se souvenir que l'été dernier, j'étais au bord du précipice après l'US Open. Il n'y avait pas un Français au troisième tour. J'étais à deux doigts de me jeter dans l'Hudson River. Souvenez-vous. Donc là, je revis. Hein. Non, mais il y a un truc particulier avec l'Australie, il ne faut pas l'oublier, messieurs. Alors, si on remonte 24 ans en arrière, il y a eu cette célèbre demi-finale franco-française entre Arnaud Clément et Sébastien Grosjean. Bon, ok, on n'avait pas gagné puisque Arnaud Clément avait perdu ensuite sur Agassi. Et bien, le dernier tricolore à avoir atteint une finale majeure, c'est ici, c'est à Melbourne. Ouais. C'était Joe Tsonga en 2008. Franchement, les vibrations à Melbourne, elles sont bonnes. Et si ça rigole tout de suite, là, sur le McCain, McCain, si ça rigole aujourd'hui et demain, on aura deux Français en quart et on va égaler la perf de 2013. Voilà. Il y avait Tsonga et Chardy qui étaient déjà en quart.
Deux Français en quart, ce serait un très bon cru. Ça, c'est. Il n'y a pas à tortiller. Mais deux Français en huitième, c'est pas un grand cru.
Et 12 Français.
Non, deux en huitième, c'est. C'est la bonne moyenne.
Normal pour un pays.
Normal.
Les amis, je vais vous couper parce qu'il y a deux balles de 7 pour Hugo. Ah, priorité évidemment au direct.
Voilà, c'est une réussite,
de Melbourne.
Ouais, je vous cache pas que j'étais au bord du court pour le premier set et je suis rentré dans ma petite salle de presse. J'étais pas follement rassuré, mais métamorphosé. Hugo Humbert, balle donc pour faire un set partout, 5-2, 40-15. La première balle est sauvée par l'Allemand, mais il y aura une deuxième occasion dans quelques secondes. Donc 5-2, 40-30.
On va rester avec toi. Je rappelle qu'il est 19h18 à Melbourne. C'est pour ça qu'il nous parle de frites. Eric Salio, évidemment, il a un petit creux, mais la rencontre risque de durer. Donc le repas, c'est pas pour tout de suite la cafette. Allez, deuxième balle de 7 pour Hugo Humbert face à Sacha Zverev.
Deuxième balle de 7, 5-2. Allez. Et donc il sert côté gauche, c'est son côté préféré parce qu'il est gaucher, vous le savez. Donc il peut faire ce qu'il veut, il peut slicer, c'est ce qu'il fait. Et voilà, c'est fait. Service gagnant, 1-7 partout entre Hugo Humbert et Sacha Zverev. 6-1 Zverev, 6-2 Humbert. C'est une belle réplique.
Mais exactement, 1-7 partout entre les deux hommes. Évidemment, Hugo Humbert n'est pas favori de cette rencontre, mais il va s'accrocher notre Français. Pascal Duprat, pourquoi c'est déjà réussi alors pour toi, l'Open d'Australie?
Alors, pardon pour Hugo Humbert, je suis de tout cœur avec lui, j'espère qu'il va se qualifier. Mais surtout, ma réponse, elle est conditionnée par les performances de Gaël Monfils, parce que ce joueur, il m'a toujours fait kiffer, il me fait rêver. Et je crois, Eric va pas me démentir, qu'il fait rêver le public de Melbourne. Parce que tant il est au point, tant physiquement, on a l'impression qu'il a 10 ans de moins. Et puis voilà, demain matin, 5h30, je vais me lever pour le regarder, tout simplement. Et rien que pour ça, rien que pour voir ce joueur exceptionnel, un de ceux qui n'a pas encore pris sa retraite, qui montrait il y a quelques années que, quoi qu'on en dise, le tennis français avait de la chance d'avoir des joueurs de qualité, eh bien, ce que j'espère, c'est kiffer à 5h30. Et c'est ce qui me fait dire que ce tournoi est d'ores et déjà réussi.
Pour Gaël Monfils.
Parce que le Tessin me passionne. Pour Gaël Monfils, donc pour la France, tout simplement.
C'est bien d'être à la retraite. On peut se lever à 5h30 le matin pour aller regarder.
Non, c'est difficile de se lever à 5h30. Pour regarder un match de tennis. Mais je me lèverai quand même, Christophe.
C'est bien, parce que
je le kiffe, ce garçon.
Non, mais il y a des
parce que j'ai eu la chance de l'entraîner au foot une fois.
Ah ouais?
J'ai vu combien il était venu à l'ETG s'entraîner une fois un matin avec nous. Je me souviens, et il y avait de la neige, c'était en janvier, il préparait je ne sais pas quel tournoi ou un retour, il revenait de blessure. Et j'avais kiffé ce garçon, tellement il est naturel, tellement il est sympa. Donc voilà, j'ai une...
Il est sympa, moi j'ai
Il est bon.
Il est très gentil.
Il est bon.
les Australiens, ils le kiffent. Écoute, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez regardé ces matchs? La question, avez-vous regardé ces matchs? C'est ça la question.
Évidemment.
Avez-vous regardé ces matchs?
Avez-vous regardé le comportement du public pour Gaël Monfils? On te parle des Français. Si Imbert qui vient d'éliminer un autre Français,
pas français
qui
a abandonné, si jamais il va en demi.
S'il perd contre un Allemand, on n'a plus que un pré-retraité en 8e de finale. C'est pas suffisant pour le tennis français. Il y avait 3 8e de finalistes à Wimbledon l'année dernière.
Lui, il est déjà pré-retraité. Il est déjà pré-retraité. De quoi tu me parles?
On était sur la saison dernière, 2 Français en 8e.
Il y avait 3 Français en 8e à Wimbledon l'an dernier.
Non, mais on a fait le débat hier sur mon fils.
On progresse, mais on peut pas se
satisfaire.
Son tournoi à lui est réussi. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Évidemment.
Un tournoi est réussi, plus que de passer les tours, c'est de battre des adversaires qui l'ont largement, s'ils sont largement supérieurs à toi.
Il faut des coups d'éclat.
Hier, ce qu'a réussi Gaël, c'est un coup d'éclat. Quand tu bats le numéro 3,
ouais, mais je suis pas totalement d'accord avec toi.
Mais là, même s'il perd demain, on retiendra que son tournoi est réussi.
Non,
pour Humbert, c'est différent. Pour Humbert, il n'a pas encore réalisé un exploit. Il a battu que les mecs qui étaient inférieurs à son classement. Et, en revanche, il bat Zverev. Là, c'est un énorme exploit parce qu'il est numéro 3 mondial et qu'il est sur un nuage. Donc, ça
comme les politiques, vous volez au secours des victoires, vous.
Mais faut toi, que tout ça gagne. Quoi, voilà. Oui, toi, dès qu'il y a un mec que tu as rencontré, c'est le meilleur champion du monde.
Le sport.
Mais arrête un peu, Pascal.
Sport,
arrête d'être un admirateur du tout. Essaye d'avoir un côté un peu voilà, aller chercher la petite bête. Toi, tu cherches pas la petite bête. Tu lui fais des câlins, la petite bête.
Marc Mathieu, t'étais pas d'accord avec
ça. Moi, je suis plus dans le réalisme.
Vas-y.
Oui, tout simplement, ce qui est le plus important pour un joueur de tennis, c'est de passer les tours et d'aller en quart ou en demi. Quand on regarde les palmarès des joueurs, quand vous présentez les joueurs, on dit il a fait un quart ou il a fait une demi-finale de Grand Chelem. On dit pas il a battu le 4e mondial au 2e tour. On dit il a fait un quart de finale ou une demi-finale. Alors, sur le moment, quand on bat une tête de série ou un top 5 ou un top 10 mondial, on saute au plafond, mais en fait c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour le palmarès, c'est de passer les tours et d'aller le plus haut possible dans le tableau. Et le fait de dire je suis en quart ou en demi, c'est ce qu'on retient avec le temps.
Je parlais de l'année dernière avec 2 Français en 8e de finale. Les 2 Français étaient sortis des 8e de finale. Donc là, il nous faut autre chose. Il nous faut un quart de finale.
Sinon, il n'y a pas de progression. L'année dernière, Wimbledon, 3 8e de finaliste français. Cette année, 2 à l'Open d'Australie. Maintenant, Hugo Humbert est arrivé là avec l'abandon de fils. Donc forcément, on avait un Français parce qu'ils jouent les uns contre les autres. Là, on attend ça et on attend aujourd'hui, avec l'ampleur qu'a le tennis en France, ce sport est quand même un sport important chez nous. On a énormément de joueurs. On attend quand même mieux aujourd'hui que d'avoir seulement 2 mecs en 8e de finale. Et j'enlève et en
deux,
plus...
Deux mecs en 8e, ça fait...
Et Gaël, mon fils, est un épiphénomène. C'est-à-dire que c'est pas à lui de porter à bout de bras le tennis français. Il y a des jeunes derrière. Moi, j'entends encore les déclarations l'an dernier de Manarino, etc., avant la Coupe Davis, pour choisir leur coach. Ils étaient déjà... Ils prenaient des positions comme s'ils étaient dans les 10 premiers joueurs mondiaux. Non, la nouvelle génération, elle est là, on la sent... Mais elle tarde.
Humbert, il est quand même 14e. Meilleur joueur mondial, c'est pas trop mal quand même. Oh.
Mais je te dis pas que c'est pas bien.
Alors, on va parler de vélo tout à l'heure. Alors, ce moment-là, on pourrait dire pourquoi on gagne pas le Tour de France.
On va en parler.
Vous allez avoir l'occasion d'en parler, mais
oui,
les spécialistes.
On a l'impression que tu fais une découverte, mais ça fait un moment qu'on dit.
Mais quel des
Français qui gagne le Tour de France?
On dit au vélo qu'on a beaucoup de champions de venir, mais force est de constater.
On gagne pas le Tour de France, on gagne des belles étapes. Le tennis, on est sur un tournoi. Il y a beaucoup de tournois. Gaël a gagné en Nouvelle-Zélande juste avant de venir à l'Open d'Australie. Dernier vainqueur d'un grand chelem, ça fait longtemps. On nous présente des nouveaux joueurs qui arrivent, qui gagnent des matchs, on en fait des vedettes parce qu'ils tapent un numéro 2, un numéro 3 mondial et derrière, ça fait flop. On attend mieux que ça. On a quand même l'un des grands tournois chez nous qui s'appelle Roland-Garros, si ce n'est le plus beau. Ah, c'est la française, c'est la Bérésina, côté français.
Okay, on va pas se contenter de ça, j'ai bien compris,
non,
en tout cas, pour la majeure partie dans le studio RMC, même si Pascal n'est pas d'accord avec vous, on retrouvera en direct de Melbourne, Eric Salio dans quelques instants. Restez avec nous, évidemment, pour ce match, le 8e de finale entre Hugo Humbert et Sacha Zverev. 1-7 partout. Le 3e set vient tout juste de débuter. À tout de suite sur RMC, on va poursuivre la discussion.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Jérôme Pinault, Marc Madio, Pascal Duprat, Christophe Cessieu. À partir de 10h, restez bien avec nous. On parlera du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Est-ce que le PSG, en cas de contre-performance, peut se mettre le feu? On se posera la question et vous n'êtes pas d'accord. Les GG. Mais restons un instant sur l'Open d'Australie. Deux Français sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Hugo Humbert affronte en ce moment même Sacha Zverev. On en est où, mon cher Eric Salio, en direct de Melbourne?
Un 7 partout entre le numéro 2 mondial et le Messin. 6-1 Zverev. On a eu très peur, mais il y a eu une belle réaction de Hugo Humbert qui a pris le deuxième 6-2. On est vraiment au tout début du troisième puisque Hugo est sorti du court pour se changer. Il y a 1-0 Zverev, mais c'est Hugo Humbert qui est au service et il mène 40-0.
Et puis il y a également
Djokovic qui a débuté
qui vient de débuter. Hein, son
voilà, Djokovic a débuté sur la Rod Laver Arena face à Jiří Lehečka. Et il y a 2-1 pour le Serbe. C'est un match que je vais surveiller de très très près parce que...
Tu sens la surprise? Une surprise.
En tout cas, le vainqueur... Et là, les gars, il faut faire des grandes gueules du sport mardi. Si on a un Djokovic-Alcaraz mardi matin... Faut changer la programmation, faites les grandes gueules.
Bah écoute, c'est vers quelle heure? Ça dépend, c'est vers quelle heure?
Ouah, ce sera en night session, donc ce sera vers 9h du matin.
9h du matin, bah on remplacera les GG évidemment. Voilà. On mettra Marshall et Truchot un petit peu au repos et on sera là évidemment dans les grandes gueules du sport. En plus, 9h normalement, Christophe tranquillement est réveillé. Alors l'Open d'Australie est-il largement réussi pour nos Français? C'est notre question. Lionel veut participer à notre débat. Bonjour Lionel.
Salut tout le monde.
Salut Lionel. Bonjour. Alors, Lionel, réussi ou pas réussi?
Bah, évidemment qu'il a... Il est réussi parce que si on... Je suis juste de demander quels étaient les projets avant que le tournoi débute. Vous espériez quoi? Qu'un Français gagne le tournoi et en demi-finale, vous imaginez bien mon fils avoir une possibilité d'aller en quart de finale? Bah non, à la base, il n'y a que fils et Hugo Humbert. Et malheureusement, ils sont affrontés. Bah, Humbert, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore perdu. Et fils, il est là. Mon fils, il est là. Donc moi, pour moi, faut être suicide, le tournoi est largement réussi. Il n'y a pas longtemps, comme je disais, avec celle qui nous reçoit, je ne me rappelle jamais de son prénom, qui est adorable.
Amina, au standard.
Amina, elle est adorable. Eh bien, à la base, un Français en deuxième semaine, c'était un tournoi réussi. Ben là, on les a. Hein, parce que je ne sais pas ce que vous espériez plus.
Ok.
Est-ce que Stephen Brun espérait que, par exemple... Un Français en demi en Australie.
Bon, je pense pas, mais on lui posera la question. Il n'est pas avec nous ce matin, mais il pourra répondre dans Stephen Brunch à partir de 13h. Jérôme, est-ce que tu peux répondre à Lionel? Qu'est-ce que tu attendais de plus?
Eh ben, une progression. On les a depuis quelques temps, ces Français en deuxième semaine. Déjà, quand on est Français et qu'on a le tennis français qu'on a avec le plateau de jeunes qu'on nous présente, on peut pas juste se contenter de ça. Pour moi, hein, encore une fois, ce n'est que mon avis. En deuxième semaine, on a deux joueurs. Maintenant, deuxième semaine, si c'est huitième et premier tour de la deuxième semaine, tu rentres à la maison. Non, on attend que ça progresse. Hugo Humbert, Arthur Fils aujourd'hui doivent nous faire des quarts de finale plus régulièrement dans les grands tournois du Grand Chelem. C'est ça la progression. Mais évidemment que si on part du constat de départ, on est mauvais, donc on peut faire que mieux. Bah, soyons heureux. Pas de
problème. Et puis quand on parle du tennis français, c'est les garçons.
Hommes et femmes. Et là, c'est la Berrettini.
Et les filles. Et ça, Pascal, non,
mais là,
je ne sais pas si.
La question en deux, parce qu'en fait,
mais,
la question,
ouais, mais là,
d'abord
non, on
garçons.
Dit. Non, mais quand les filles marchent, on dit ah, les filles ont sauvé le tennis français. Là, on peut pas dire ça. Alors, c'est une catastrophe. Les filles, c'est une catastrophe. Il y en a qu'une qui est passée au deuxième tour. Elle est moscovite. Elle a été récupérée par on l'a fait venir dans le giron du tennis français. On n'a jamais connu une Berrettini totale pour le tennis féminin français. Et ça
les
fait
filles sont en souffrance. Ouais. Je te rejoins. Les filles sont en souffrance, mais dire que les garçons ne progressent pas, je suis pas d'accord avec
ah
vous.
Ben non, mais
c'est vraiment, cité, pas jusqu'à l'auditeur. Dire qu'ils progressent, mais je dirais qu'on se maintient à un niveau correct.
Non, là, moi je te dis qu'on n'est pas loin d'assister avec Fils, avec Humbert, avec Péricard. On n'est pas loin d'assister à des jeunes joueurs français qui s'inscrivent durablement dans les meilleurs du classement ATP.
On
n'est pas loin.
On attend.
Ok,
attendez demain matin pour qu'on en ait deux en quart. Attendez demain matin peut-être.
Christophe parlait du tennis féminin. On va aller voir Eric Salio qui a suivi ça évidemment de près à Melbourne. Est-ce que tu t'attendais à un tel fiasco? Oh, oui, est-ce que c'était écrit d'avance, Eric?
Bah déjà oui non, il y a pas eu de surprise. Caroline Garcia reprenait la compète alors qu'elle n'avait pas joué depuis le mois de septembre. Bon, elle a eu un premier tour difficile contre Osaka. Clara Burel était blessée. Diane Paris revenait de blessure. Varvara Gracheva a passé un tour, mais derrière elle a raté l'occasion de sa vie parce qu'elle perd sur une Lucky Loser qui est d'ailleurs qualifiée pour les huitièmes de finale, une Allemande. Non, il y a un désert actuellement. Il y a un désert et ce qui est inquiétant, c'est que le sentiment, quand on discute avec quelques personnes autorisées, c'est qu'on a délaissé le tennis féminin, que des coachs sont mis là pour entraîner des filles alors qu'ils sont pas forcément motivés. Donc il y a un plan de relance qui va être déclenché, d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai eu la chance d'échanger avec Ivan Lubitsch qui m'a dit le président veut que je fasse un plan de relance, donc je vais
travailler là-dessus. Aussi.
Non, mais on a l'impression d'être à l'Assemblée nationale.
Non. Non mais là il faut tirer la sonnette d'alarme là.
Je sais pas si vous avez lu tennis, les de Julien Benetou cette semaine,
notre GG, ouais.
Qui dit dans cette ligue, dans certaines ligues, il n'y avait pas de détection pendant des années. Il y a des générations de filles qui ne se sont pas entraînées et les coachs n'allaient jamais vers les filles parce que c'est un peu dévalorisant d'être un entraîneur de filles plutôt que de s'entraîner des garçons. Donc quand tu lis ce genre de choses, c'est pas digne d'une fédération aussi riche que la fédération française. Ouais, qui est assis sur et qui a des moyens incroyables, ouais, ça, et qui les met pas au service de son élite.
De toute façon, quand on est un pays comme la France, quand tu sais les moyens qui sont donnés pour la fédération, pour faire ce sport et développer ce sport, c'est un problème fédéral et de structuration que d'avoir un vide complet. Tu ne peux pas passer au travers pendant... Ça fait quand même un petit moment que ça dure maintenant, sans avoir de date. Tu peux mettre ça sur le talent, la génération. Non, non. À un moment donné, quand t'as un trou comme ça, ça ne peut pas être que générationnel. C'est aussi que ça a manqué de bosser. Mais on le sait, on le constate. On a Julien avec nous, on a Sarah de temps en temps avec nous aussi.
Marion
on le
aussi,
sait, hein. Marion. Voilà. Mmh. En termes de fédération et de gestion et de direction de ce sport, il y a un vrai souci.
Ouais, ça, il n'y a pas que dans le.
Il n'y a pas que dans ce sport.
Eric Salio, pour revenir aux garçons, c'est vrai qu'on attendait Fils et Mpetshi Péricard, hein, les deux, j'ai envie de dire, toute proportion gardée, nouvelles stars du tennis français. Est-ce qu'il y a un peu de déception de ce côté-là tout de même dans cet Open d'Australie?
Giovanni Mpetshi Péricard, vous vous en souvenez, il perd en 5-7 contre Gaël Monfils. C'était un match qui était formidable. Il s'est fait un peu piégé par l'expérience de la Monf, mais bon, on sait que à Wimbledon, c'est un garçon qui peut faire des ravages. Vous avez vu son service, il mesure 2m03, il pèse 102 kilos, il fait avancer la balle à 220 km/h. À Wimbledon, je fonde de gros espoirs sur Giovanni Mpetshi. Arthur Fils, bon, malheureusement, il a un pépin avec un strap, ça lui provoque, ça lui compresse un nerf, donc c'est pour ça qu'il a abandonné contre Hugo Humbert. Il faut absolument qu'il règle ce problème, mais le potentiel chez Arthur, il est là, c'est évident, il est déjà 20e mondial. Il avait pris un set à Zverev à Bercy. On sait que c'est un garçon qui va péter un truc en grand chelem dans peu de temps. C'est évident. Moi, je suis pas inquiet du tout. Et Hugo est en train de prendre une autre dimension. Il comprend beaucoup de choses. C'est un garçon qui est intelligent, qui a une bonne équipe. Et moi, je suis convaincu qu'il va atteindre le top 10 au cours de l'année.
Il faut rappeler, tu l'as dit, hein, la finale à Bercy face à Zverev. Ouais. Déjà, on en avait beaucoup parlé dans cette émission. Et là, il est en 8e de finale face à l'Allemand. On remercie Lionel d'avoir été avec nous.
Il lui manque un tout petit truc encore à Humbert, c'est justement de parvenir à battre un top 10, un mec comme Zverev.
Dans un tournoi du Grand Chelem.
Je pense que ça peut être un déclic pour lui.
Il est animé par quelque chose de différent. On a lu le papier ce matin dans l'équipe. Et superbe, dans son histoire, raconter qu'il était pas regardé, pas le premier, laissé de côté. Je pense que ça l'anime, ouais. Et ça peut faire de lui, avec l'expérience, tu sais, t'as ces trucs qui t'ont marqué dans la vie, qui te font passer de un peu Calimero, j'ai pas de chance, je vais pas y arriver, à quand je prends de l'ampleur, je vais passer au-dessus de ça, et du coup, je vais me servir de ça. Ça peut être un vrai déclic pour lui, évidemment, un vrai déclic sportif, c'est aussi de battre un mec comme Zverev aujourd'hui. Et ça l'aidera. Je pense que ça peut, son histoire est magnifique, il a des choses à raconter, il a quelque chose en lui de plus que certains autres, et ça peut faire de lui un grand champion.
Alors,
c'est un artiste, il joue très bien, très très bien du piano, il n'est pas fait comme les autres, et parfois il me dit je suis bipolaire. Vous avez vu à Bercy, souvenez-vous, il arrêtait pas de s'encourager, vas-y mec. Et là, au deuxième tour contre les Libanais, il a pas dit un mot pendant une heure et demie. Voilà, ils me disent chez moi, et j'ai du mal à me trouver. Et il parle beaucoup avec sa psy pour essayer de trouver un équilibre dans une sorte de motivation sur un court.
Hugo Humbert, Sacha Zverev, on en est où, mon cher Eric?
à 7 partout. Donc 6-1 Zverev, 6-2 Humbert et 2 partout dans le 3ème. C'est très équilibré, c'est très intéressant.
Eh bien, on va suivre ça tout au long de la matinée dans les grandes gueules du sport, évidemment. Et demain, Gaël Monfils affrontera Ben Shelton en 8ème de finale également de l'Open d'Australie. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On s'en fout pas. Pas mal d'informations à vous donner. J'ai toujours cette histoire Colomouani qui traîne, hein, ce transfert entre le Paris Saint-Germain et la Juve. J'ai du biathlon aussi avec un coup de tonnerre, mais aussi du Antoine Dupont. Et oui, toujours Antoine Dupont. On en parle dans quelques instants. Enfin, si vous voulez, on s'en fout pas. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h44 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Marc Madiot, Christophe Cessieux, mais également évidemment Eric Salieu en direct de Melbourne. Sachez que nous sommes dans le troisième set entre Hugo Humbert et Sacha Zverev. Un set partout et trois partout. Donc, dans ce troisième set, notre Français, est à la lutte face à l'Allemand. À partir de 10h, J-3 avant Paris Saint-Germain, Manchester City, le PSG peut-il se mettre le feu avec ce match de Ligue des Champions? Oui ou non, vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, des informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, 3 sur 3 pour l'équipe de France de hand au Mondiaux. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Alors, comment te dire? Je m'en fous, mais je m'en fous pas.
Ah, donc plutôt je m'en fous pas.
D'accord.
Mais tu t'en fous.
Ouais.
Mais je comprends, tu vas avoir la main. Bravo.
Alors moi, je m'en fous pour le moment.
Ah, t'as le droit, Pascal Duprat.
Parce que comme c'est normal, je m'en fous.
Ok, Jérôme Pinault.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser Christophe.
Il a des choses à dire, Christophe. Alors déjà, 3 matchs, 3 victoires pour les Bleus, donc lors de ces championnats du monde, avec le succès hier face à l'Autriche, 35-27. L'équipe de France valide la première place de son groupe. On va retrouver en Croatie notre envoyé spécial, notre commentateur Clément Brossard. Bonjour Clément.
Salut JC, salut les GG. Heureusement que certains s'en foutent pas, sinon je serais parti direct.
Oui, c'était dommage quand même.
Sinon, tu serais pas levé quoi.
L'équipe de France, en tout cas, déroule sans forcer dans ce premier tour.
Exactement, ça s'est relativement bien passé. 3 succès nets, plus 16 face au Qatar, plus 24 face au Koweït, plus 8 hier soir face à l'Autriche. Les Bleus, champions d'Europe en titre, ont tenu leur rang. Satisfaction pour Dika même, il a été MVP hier soir, c'était en zone mixte. Écoutez-le.
On prend toujours pour acquis le fait que l'équipe de France va tout gagner. On travaille dur. On a eu un groupe, bien sûr, il faut être aussi honnête, plus facile que d'autres. Mais voilà, les matchs, il faut les préparer, il faut les jouer. On a été très sérieux et on est vraiment content de ce premier tour.
Ces 3 premiers matchs qui ont permis d'observer une certaine fluidité dans le jeu des Bleus, hein, c'est ce qui avait manqué lors des Jeux Olympiques notamment. Il y a peut-être encore une efficacité à retrouver, ajuster les jets de 7 mètres aussi, mais Ludovic Fabregas, le capitaine, retient que le positif.
Le plus important, ça reste le résultat, la qualification en étant premier du groupe aussi, donc plein de points pour le tour principal. Je pense que défensivement, on a été bon. Sur le jeu à 6 contre 7 aussi, on a noté beaucoup d'améliorations par rapport au match de préparation face au Portugal. Donc c'est encourageant et offensivement aussi, on a marqué plus de 30 buts à chaque fois. Donc c'est vraiment positif, mais c'est que le début du mondial aussi.
Et la suite du mondial, eh bien, c'est à partir de mardi à Varazdin. On va d'ailleurs prendre la route dès la fin de ce direct, JC, pour traverser le pays d'ouest en est. Et face aux Bleus, 3 prochains adversaires annoncés par le demi-centre Nedim Remili.
Contre la Hongrie, contre la Macédoine aussi, qui est à peu près chez elle. Hein. Il y a aussi beaucoup de Macédoniens, ça va être beau. Sûrement les Pays-Bas qui jouent un jeu très rapide. Donc de toute façon, si on veut se rapprocher de ce titre, on va commencer à avoir des matchs de plus en plus difficiles. Et ça commencera dès le prochain tour. Mais là, c'est pour l'heure, c'est au repos.
Parce que le repos, les Bleus vont quand même en avoir besoin. Ils n'ont pas été épargnés physiquement dans ce mondial, dans ce début de mondial du moins. Samir Belhassen, le gardien numéro 2 des Bleus, s'est blessé à la cuisse vendredi. Il est en béquille d'ailleurs, je l'ai croisé ce matin. Il sera remplacé par Valentin Kiefer, qui rejoint le groupe aujourd'hui, cet après-midi à Varazdin. Petite alerte aussi pour le gardien numéro 1, Rémi Desbonnets, qui s'est tordu la cheville lors de l'échauffement hier. Et puis à l'entraînement, eh bien, ils se mettent quand même pas mal de coups. Hein. Il y a pas mal d'intensité chez les Bleus. Et comme le dit Nedim Remili, eh ben, il y a un peu de casse forcément.
Ouais, ça a été un peu dur là. C'était un peu dur ces derniers jours. Il y a Luca qui a pris des coups dans tous les sens à l'entraînement aussi. Donc, se reposer un peu et se faire des câlins plus que cet habitude.
Allez, Craig Karabatic qui s'est fait exploser l'arcade par Thibaut Brier, notamment lors du match 2 face au Koweït. Alors, on sait et on voit une vraie symbiose au sein du groupe. Hein, beaucoup de sourires entre eux, de complicité sur le terrain aussi. Ils s'imposent en patron. Je vous propose pour terminer d'écouter Tobias Wagner. C'est le pivot autrichien, ex-toulousain hier après le succès des Bleus.
C'est très fort, c'est une équipe incroyable, bien sûr, Dika même, Nedim Remili, Fabregas, ils sont incroyables, pour moi c'est la meilleure équipe du monde.
Et tac, prenez ça les Danois. Bon, bah maintenant, reste plus qu'à confirmer. Et la route est encore longue. Il reste 5 matchs avant une éventuelle finale à Oslo le 2 février prochain.
Merci beaucoup Clément Brossard. On va suivre tout ça tout au long de la semaine et sur rmcsport.fr. Oui, il reste encore beaucoup de chemin avant d'être champion du monde, mon cher Christophe.
Ouais, moi, heureusement que Clément est là parce que j'avais pas l'impression que le mondial de hand allait débuter. Franchement, ces formules alambiquées avec des tours préliminaires, des tours principales.
C'est pour gagner 10 sous.
Des machins, tu affrontes le Koweït, tu affrontes le Qatar. Là hier, c'était un vrai match face à l'Autriche, mais et c'est la même chose dans tous les sports. On va avoir une Coupe du Monde de foot à 48 équipes. Je crois qu'il faudra attendre plus de 2 semaines avant d'assister à un premier match intéressant. Voilà, c'est la même chose en rugby. Rappelez-vous les rousses qu'on a mis au premier tour contre certaines nations. Et en plus, on avait blessé Dupont sur ce coup-là. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces compétitions à rallonge. J'aimerais que ça soit plus rapide, plus condensé
et plus intéressant.
Ça, les vrais matchs. Là, franchement, il s'éclate, Clément. Il fait du reportage, mais il n'y a pas du tout d'émotion quand tu vas voir ce genre de match. Tu sais très bien, avant le début du match, que tu vas gagner. Il faut juste savoir le nombre de points que tu vas leur mettre. Mais voilà, le championnat du monde va débuter avec le tour principal. Mais on pourrait très bien se passer de ce tour préliminaire.
Ok, c'était le coup de gueule de Christophe Cessieu, inattendu hein, sur le hand. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Hugo Mola qui parle du statut particulier de sa star Antoine Dupont. On s'en fout, on s'en fout pas. Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Marc Madiot.
On s'en fout surtout pas.
Oh, surtout pas.
Surtout pas.
Ok. Alors, c'était vendredi, en conférence de presse, le manager du Stade Toulousain, Hugo Mola, a évoqué l'idée qu'Antoine Dupont ne dispute que des matchs internationaux, parce que on lui a rapporté que sa star aura joué cette saison plus de matchs en Coupe des Champions qu'en Top 14 après la rencontre cet après-midi face à Leicester à Ernest Vallon. Écoutez justement Hugo Mola sur Antoine Dupont.
Il faut faire attention à pas le stigmatiser. Oui, c'est un peu le paradoxe de la saison. Il va plus jouer en équipe de France qu'avec nous. Il va plus jouer en Champions Cup qu'en championnat. Ça, c'est une évidence. Ça peut ressembler à ça. Et peut-être que le diffuseur aussi se plaindra peut-être à un moment ou un autre de pas l'avoir trop souvent sur le terrain, lui et les autres. Il y a des questions à se poser quand même sur le statut des joueurs, sur peut-être l'évolution de certains, sur le fait qu'ils puissent jouer que des compétitions internationales et quasiment peu ou pas de compétitions nationales.
Ça vous fait réagir, la marque
Ah oui, moi, ça me fait réagir parce que qui paie le joueur, c'est le club. Où sont les bases de tous les sports, c'est dans les clubs et dans les championnats nationaux. Si on coupe le grand public, le public de connaisseurs, le public du terroir, si on le coupe du championnat de France et qu'on enlève les meilleurs joueurs pour faire des coupes de je ne sais quoi au niveau international, non, on non, voit là, bien que ça marche pas.
Là, il parle de la Champions Cup et de l'équipe de France.
Si ton joueur est plus souvent avec l'équipe de France qu'avec ton club, il y a un déséquilibre. Faut savoir, il y a quand même un moment, il y a quelqu'un qui paye. Là,
alors,
pour le moment,
alors au rugby, la Fédé prend.
Oui,
mais quand même, c'est la
base, c'est le club. C'est comme nous,
c'est l'année particulière pour Toulouse.
Si j'ai un joueur dans mon équipe et qui passe plus de temps en équipe de France qu'avec mon équipe, c'est moi qui le paye, la Fédé paye rien.
Oui, mais j'aimerais. J'ai une autre lecture. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Marc, mais j'ai une autre lecture. Pour être plus complet, il faut simplement dire une chose. C'est quand même particulier pour Antoine Dupont parce que le club, comme la Fédé, a accepté qu'il joue les Jeux Olympiques. Donc ça a contribué à ce qu'ensuite, il soit en vacances et qu'il ne démarre pas la saison. Ensuite, s'il n'avait pas été blessé à l'épaule contre le Racing et s'il n'avait pas eu la grippe contre le Stade français, on pourrait pas dire qu'il a joué plus de matchs en Champions Cup qu'en championnat. Donc c'est parce qu'il était blessé, parce qu'il était.
Parce qu'on lui a accordé aussi quelques semaines de vacances.
Mais pas plus que les autres internationaux. D'habitude, le Stade, pas plus que d'autres internationaux.
Donc suite à sa participation au jeu, tout le monde
s'est dit qu'il était de repos. Il en a eu plus que les autres.
Madrid avait eu le même régime.
Voilà. Mais cela dit, je comprends. La position de Marc, oui, mais je veux simplement dire une chose pour le Stade Toulousain. C'est aussi la possibilité de faire la part belle à leurs jeunes joueurs. Donc quand Antoine Dupont n'est pas là, ils font aller les jeunes et on voit ce que ça donne.
Si c'est le club
qui domine, c'est aussi parce qu'ils ont une formation incroyable.
Et
le fait que Dupont soit pas là, ça contribue à mettre les jeunes plus souvent qu'à leur tour.
Et il faut savoir aussi que le Stade Toulousain va chercher jeunes ou un peu moins jeunes, quasiment tous les internationaux. Donc après, tu vas pas te plaindre
qu'ils aillent en Coupe de France. Mais dans cette équation, dans ton club, dans cette équation et dans ce débat qu'a eu déjà lieu hier sur les antennes d'RMC, j'entends une chose, un mot qu'on oublie beaucoup. On parle de diffuseurs, on parle de l'équipe de France. Mais les gens qui vont à Ernest Vallon, les spectateurs, c'est eux qui font l'essence de leur club.
Ouais, mais c'est
les
toujours plein.
Les mecs qui vont.
Il y a du pont ou pas.
Ouais, mais, non, mais alors, mais tu te
comptes. C'est toujours plein.
C'est toujours plein, Pascal. Mais moi, demain, je suis de passage à Toulouse. Je ne suis pas un fan de rugby. Si je sais qu'ils jouent pas, j'y vais pas.
Mais tu vas avoir un Tamac, tu vas avoir Genoux, tu vas avoir Marchand, tu vas avoir Movaca. Il y a toutes les stars de rugby français qui sont à Toulouse.
Il y a 50 joueurs sur les 50 joueurs de l'abonnement internationaux.
Le mec qui paye, il vient voir les stars. Le mec qui vient voir le spectacle, il a envie de voir les meilleurs. Mais il l'a pas. Tout le monde
est dans sa normale. À ce moment-là, il faudra extraire.
C'est notre public sur le territoire français. Et en foot, on a très longuement critiqué le PSG parce qu'il y avait Neymar, parce qu'il y avait Messi. On était tous contents d'aller les voir au Parc des Princes.
Évidemment. Est-ce que vous préféreriez qu'on sorte ces stars du système de club et qu'on leur donne un statut fédéral et les faire jouer uniquement en équipe de France? En rugby, tu ne peux pas jouer tous les week-ends, tous les jours, tous les week-ends de l'année. D'accord. Ce n'est pas possible. Donc à un moment, il faut faire des choix. On rallonge les compétitions. Les stars, t'es obligé de ne pas t'es obligé de les faire jouer que de temps en temps et pas tout le temps.
Ok, ça vous a fait débattre en tout cas. Pendant ce temps-là, Zverev a breaké Humbert et c'est une balle de 7 maintenant, Eric Salio.
Ouais, c'est dommage ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Hugo Humbert a commis quelques bêtises sur sa mise en jeu et voilà, donc dans l'embarras, puisque Sacha Zverev mène 5-3 dans ce troisième set, 40-0, il est au service l'Allemand avec son t-shirt rouge et il finit sur un ace. Donc voilà, 2-7-1 pour Sacha Zverev, 6-1, 2-6, 6-3. C'est vraiment dommage ce jeu de service.
On était à 3 partout et ça a été très rapide dans ce troisième set.
Tu fais la diff avec les grands.
Voilà. Ok, on va jouer tout de même pour se remonter le moral. Vous les auditeurs, demain c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, mais pas sur RMC.
RMC, des vacances ou de l'argent?
Toute la journée de demain, nous allons vous offrir du cash ou des vacances et c'est vous qui allez choisir à gagner jusqu'à 5000 euros ou un séjour clé en main, que ce soit à la montagne, à la mer ou alors sur la mer avec une croisière. Vous envoyez dès maintenant RMC au 732-16. Dès maintenant RMC au 732-16, ça peut vous aussi vous arriver. On a encore beaucoup de choses, chers auditeurs, à vous raconter aujourd'hui. On va parler du Paris Saint-Germain dans quelques instants. On va parler de dopage également, ou encore Johan Richomme, deuxième du Vendée Globe, qui sera notre invité exceptionnel. Restez bien avec nous. Ça va être encore incroyable. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.